Bonjour à toutes et tous et merci pour votre présence à la librairie aujourd'hui pour notre nouvelle séance du cycle de pépites de l'année 2025-2026. Toujours en partenariat avec la Web Radio Transistor des étudiants de l'ENS de Lyon. Aujourd'hui, nous recevons Camille Giraud, maître de conférence en géographie à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Vous avez soutenu votre thèse en 2017 sous le titre « Construire la naturalité nordique à la lumière de la ville ». La production des espaces naturels protégés comme composante de l'urbanité à Oslo, Norvège, Göteborg, Stockholm en Suède, Copenhague au Danemark et Helsinki en Finlande. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de votre contribution dans l'ouvrage Arctique paru dans la collection Odyssée Ville Portrait. Votre contribution donc à la ville de Copenhague dont nous parlerons aujourd'hui. Cette région qui est plus que jamais d'actualité puisque les États-Unis pensent racheter le Groenland sous gouvernance danoise. Donc nous aurons le plaisir de vous écouter en dialogue avec Ambre Rioux et Julien Iriard, tous deux élèves en master de géographie. Cette présentation, cet échange durera environ 30 à 40 minutes, puis il y aura certainement des questions. Et nous pourrons continuer autour d'un café si vous le souhaitez. Et vous pouvez d'ores et déjà réserver votre temps pour la pépite suivante qui se tiendra le mardi 3 mars prochain en compagnie de Romain Descendre qui nous présentera Antonio Gramsci. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et merci à toutes les personnes qui sont venues nous écouter. Pour commencer, il y a un peu pour rentrer dans le vif de ce texte. Donc ce texte fait partie d'une collection qui sont les collections Odyssée Ville Portrait et qui sont caractérisées par la grande dimension sensible de l'expérience du voyage dans les territoires dont les géographes parlent. Notamment, les auteurs, ils parlent de leur rapport aux villes présentées et décrivent leurs pratiques dans celles-ci. Et c'est donc un récit qui est structuré autour d'une dimension intime. Ce qui se voit aussi dans le fait qu'au niveau de l'introduction, il y a une forme d'autobiographie structurée en villes. Donc vous présentez Lyon, Copenhague et Chambéry. Et donc pour rentrer dans le thème de l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, je me demandais si vous pouviez nous parler de votre comment votre recherche vous a amené à visiter Copenhague et de votre rapport à cette ville.
Merci beaucoup. Donc déjà bonjour et merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler de Copenhague. Copenhague, en fait, c'est une ville que j'ai découvert assez tard dans le cadre de ma thèse et pas avant. Je n'avais jamais eu l'occasion de m'arrêter, encore moins de visiter Copenhague auparavant. Mais quand on construit un projet de thèse, forcément, on se pose la question des terrains que l'on va envisager. Moi, si je résume un petit peu le projet de thèse, il était pensé autour des espaces protégés dans les villes d'Europe du Nord, parce qu'il y avait différentes raisons scientifiques qui pouvaient justifier ce choix, mais le cœur du sujet c'était quand même la Suède et donc les deux villes de Stockholm et de Göteborg. Mais par la suite, en discutant avec mon directeur de thèse, dans le cadre du comité scientifique également qui accompagne le travail de thèse, il a été question d'élargir un petit peu les terrains d'études. Et parmi les terrains qui ont spontanément été évoqués, on a eu les trois autres villes d'Europe du Nord, que sont Helsinki en Finlande, Oslo en Norvège et donc Copenhague au Danemark. Et donc une fois que ce choix a été fait, on pourrait dire depuis le bureau, depuis une étude un petit peu de la littérature, un regard également sur les cartes qui nous permettait d'identifier un certain nombre d'espaces protégés dans le territoire de la métropole de Copenhague ou aux abords immédiats, je me suis rendu sur le terrain, mais donc je m'y suis rendu assez tard. Il a été rappelé tout à l'heure que j'ai soutenu ma thèse en 2017, ça fait déjà un petit moment désormais, ce qui veut dire que la première fois que j'ai mis les pieds, si je puis dire, à Copenhague, c'était plutôt, je me souviens plus exactement, mais je pense que c'était août 2013.
Toujours dans cette dimension de sensible de l'ouvrage, il y a quelque chose qui est vraiment fascinant quand on le lit, c'est qu'on est entre une forme de récit de voyage, voire de blog de voyage plus contemporain, et en même temps c'est un ouvrage de recherche qui évoque des enjeux qui ont été étudiés par les chercheurs et qui font référence à des concepts, des approches techniques de l'espace. Et donc pour permettre à notre public et à nos auditeurs et auditrices de saisir cette structure tout à fait inhabituelle, je me demandais si vous pouviez nous lire un extrait de votre texte.
Alors un petit extrait, en sachant que la thèse n'est pas rédigée évidemment de cette manière-là. Là c'est pour la demande pour cet ouvrage. C'est aussi une invitation très explicite à prendre mon vélo pour me diriger à peine plus d'un kilomètre au nord, en direction de cet autre lieu incontournable pour qui vient à Copenhague pour la première fois, la sculpture de la petite sirène réalisée par Edward Eriksen en 1913 et qui veille depuis cette date sur l'entrée du port de Copenhague. Malgré les divers actes de vandalisme dont elle a fait l'objet, elle reste le symbole indéniable de la ville, de son attraction urbaine et de sa projection métropolitaine en Europe et dans le monde. À l'instar du prince qu'elle cherche à séduire dans le récit d'Andersen, la petite sirène séduit les voyageurs qui peinent à s'en détourner. Face à cette icône de bronze, les touristes prennent la pose et la photo s'impose. Mais le paysage qui s'offre au regard est plus riche d'enseignements pour moi qui souhaite comprendre cette ville. À l'arrière-plan, tout comme légèrement plus au nord de la petite sirène, on distingue aisément des indices qui rappellent que Copenhague est aujourd'hui un grand port industriel et un grand port de croisière. En remplacement des anciennes liaisons maritimes transatlantiques, d'ici partent désormais des paquebots de croisière vers Reykjavik ou vers Nuuk pour des touristes fortunés en mal de froid et en quête d'exploration arctique.
Merci beaucoup pour cette lecture. Donc vous l'avez un peu mentionné, c'est pas comme ça que vous avez rédigé votre thèse, mais ça pose une question. Est-ce que vous intégrez la dimension sensible à vos autres travaux de recherche et pas uniquement à des ouvrages comme celui-ci ?
Oui, merci pour cette question, une vaste question, et je pense que tout le monde, presque à mon avis, dans la salle, est sensibilisé à cette question-là. En sciences humaines et sociales, on se pose forcément la question du positionnement par rapport à son objet de recherche, la manière dont on est plus ou moins familier vis-à-vis de cet objet de recherche. Donc forcément, dans la thèse, il y a quelques pages sur moi et cet objet de recherche. Le but, c'est pas de faire une égo-géographie, hein, mais c'est quand même d'être le plus transparent, le plus explicite possible dans les rapports à cet objet de recherche. Pour le dire là aussi très très simplement, l'ambition du travail, c'était en quelque sorte d'avoir une portée comparative. Autrement dit, beaucoup de travaux ont été conduits sur les espaces protégés dans des contextes alors, soit plus proches de nous en France, soit plus largement en Europe, mais assez peu en Europe septentrionale. Et donc, l'idée, c'était en allant voir en Europe du Nord quelles sont les politiques de protection, comment sont appropriés les espaces protégés, ben, peut-être qu'en revenant ici ensuite, on peut comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ces espaces protégés, hein, que ce soit des réserves, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux dans le cas français. Mais forcément, ça reste mon regard, même si j'ai travaillé à partir de données, à partir de matériaux. C'est un travail qui est essentiellement qualitatif. Et toutes les observations de terrain que j'ai pu conduire, bah, je les ai réalisées avec mes yeux, mes deux seuls yeux. Donc il y a toute cette subjectivité-là. Mes mêmes remarques, si je puis dire, concernant les entretiens. Dans le choix des questions que l'on pose en entretien, forcément, il y a une grande part de subjectivité. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais plus largement, j'estime que ça va de soi, finalement, que les travaux en géographie humaine, géographie sociale, soient emprunts de cette subjectivité du chercheur, en l'occurrence.
Merci beaucoup. Toujours dans cette même lignée, un élément que je trouve marquant quand on lit ce chapitre, c'est que vous l'avez construit comme un voyage dans la ville, un voyage qui est assez resserré dans le temps, avec en fait un début et une fin, une sorte de déambulation. Donc je me demandais si vous étiez retourné spécifiquement à Copenhague pour écrire ce chapitre, ou si vous aviez dû à distance mettre en récit une visite de la ville, et en fait comment vous avez procédé pour créer ce récit de visite ?
C'est la deuxième réponse qui est la bonne, c'est-à-dire que je ne suis pas retourné à Copenhague spécifiquement pour rédiger le chapitre dans l'ouvrage dont il est question aujourd'hui. Donc, comme vous le dites, c'est une mise en récit a posteriori, et soyons là aussi honnêtes et transparents, une mise en récit qui a en partie, je ne sais pas si je peux dire, été romancée, mais en tout cas été reconstruite, c'est-à-dire que le parcours qui est décrit n'est sans doute pas le parcours exact que j'aurais pu suivre. Alors, mon arrivée, elle est tout à fait vraie. Quand j'évoque Vestamager plus au sud, c'est tout à fait vrai également. Quand j'évoque Christiania également, mais ce sont plutôt les liens peut-être entre ces différents lieux de la ville qui ont été racontés de manière... construite, reconstruite pour que ça fonctionne dans le récit. Donc oui, c'est a posteriori, mais je me suis très bien imaginé sur ma bicyclette à parcourir les rues de Copenhague en rédigeant ce chapitre.
D'accord. Et Pareil dans cette ligne. Alors, une des caractéristiques centrales de cet ouvrage et de toute cette collection qui la rend si particulière en tant qu'objet livre, c'est qu'il y a énormément d'illustrations, un travail qui est très conséquent avec la réalisation de cartes, de dessins. Donc, il y a deux dessinatrices, c'est Amandine Maria et Nathalie Kopp, qui ont respectivement réalisé des cartes au sein des chapitres ou entre les chapitres. Donc, je me demandais comment se sont articulées les dimensions de création de texte et d'image. Est-ce que vous avez travaillé avec les illustratrices et comment vous avez choisi les manières de représenter Copenhague?
Alors j'aimerais bien vous raconter une belle histoire en vous disant qu'on a véritablement travaillé ensemble, on a pris le temps d'échanger, de se rencontrer, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le temps universitaire étant ce qu'il est, c'est-à-dire relativement contraint, le temps éditorial également étant contraint, le travail et les échanges avec les illustratrices s'est fait à distance avec des échanges de mails tout simplement ou... J'ai de mon côté presque listé un peu les points qui me semblaient importants, les éléments que j'aurais bien aimé voir apparaître sur cette cartographie sensible. Et puis en retour, et aussi avec notamment Benoît, mais les autres collègues qui... coordonner un petit peu l'ouvrage. Ça a été un travail à trois finalement pour essayer d'établir cette cartographie sensible. Et j'ai été très très heureux en découvrant le travail.
Ah oui, bah, du coup l'illusion de voyage partagé est très bien faite parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a eu une visite commune avec l'illustratrice pour créer ce chapitre, c'est assez impressionnant. Maintenant, pour prendre plus de recul et l'intégrer plus dans l'ouvrage en tant que tel, donc l'ouvrage s'appelle Arctique et ça peut paraître contre-intuitif d'intégrer Copenhague dans l'espace arctique. En tout cas, c'est pas forcément la première ville à laquelle on pense quand on pense à l'Arctique. Et c'est d'ailleurs une réflexion que vous menez dans le chapitre et vous justifiez l'appartenance de Copenhague à cet espace arctique. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est un des pôles ou en tout cas un des lieux de l'Arctique?
Oui, merci pour cette question. J'avoue que quand j'ai été sollicité pour rédiger un chapitre sur Copenhague dans un ouvrage arctique, j'ai moi-même été un petit peu surpris de cette proposition quelque peu audacieuse. Donc promis, juré, ce n'est pas moi qui ai voulu rentrer au chausse-pied dans cet ouvrage-là. Mais en y réfléchissant un petit peu plus, parce que finalement, je pense que vous l'avez compris, ce n'était pas le cœur de mes travaux de recherche, j'ai vraiment trouvé que cette proposition était très, très pertinente. En fait, il y a plusieurs indices dans la ville de Copenhague qui nous rappellent que l'ancrage septentrional et plus spécifiquement arctique est bel et bien réel. Il y a la maison de l'Atlantique Nord, par exemple. Il y a, quand on s'intéresse à l'histoire urbaine, le passé portuaire de cette ville qui nous invite à se diriger ou à envisager plutôt les bateaux de pêche, notamment qui allaient pêcher le hareng, par exemple, pour le ramener ensuite aux Danois. Des liens vers les Féroé et le Groenland qui sont là des liens très politiques, bien sûr, hein, avec la colonisation de ces territoires. Et puis dans le paysage urbain, quelques monuments, le monument du Groenland par exemple, qui rappelle, alors de mémoire c'est 1938, mais là pour le coup il faudrait que je trouve peut-être l'ouvrage, qui est une statue, hein, qui est érigée dans Copenhague et qui rappelle ces liens entre le Groenland et le Danemark, et qui peut qui peut être interprété de différentes manières, soit comme une manière d'évoquer cette culture inuite, culture groenlandaise, et donc un certain nombre de savoir-faire spécifiques, etc. Soit c'est l'autre manière dont on peut l'interpréter, justement un rapport de domination vis-à-vis de ce territoire et de cette population.
Merci beaucoup. Et justement, j'avais envie d'évoquer la question groenlandaise et des îles Féroé, surtout dans ce contexte actuel où ce sont des territoires, surtout le Groenland, dont on parle énormément. Et vous l'avez un peu mentionné, comment est-ce que quand on est à Copenhague, on perçoit cette dimension de domination coloniale et cette présence du Groenland? Et est-ce que ça a eu des effets, en tout cas des questions que vous avez rencontrées au moment de vos travaux de recherche?
Là aussi, en toute honnêteté, je pense qu'on ne l'aperçoit pas très facilement, ce rapport de domination vis-à-vis du Groenland quand on se balade, si je puis dire, dans les rues de Copenhague. C'est-à-dire qu'il faut être quand même un minimum sensibilisé à l'histoire politique danoise. Il faut aller chercher les indices, comme je le disais à l'instant, en essayant de voir dans la statuaire urbaine, par exemple, quels pourraient être les indices présents. Et puis après, c'est beaucoup par des lectures ou des rencontres. Des visites de musées aussi que l'on peut s'imprégner de cette histoire-là. Plus spécifiquement, la manière dont ce rapport finalement, ce rapport colonial a pu imprégner mes recherches, j'ai envie de dire assez peu. Finalement, c'était quand même un autre. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est clairement un autre sujet. Je suis pas spécialiste de relations internationales, pas spécialiste de géopolitique. Donc, et par ailleurs, j'ai réalisé ce travail plutôt en 2002, entre 2014 et 2017. Donc, il n'était pas encore question. Alors là, 2026, on parle beaucoup de Trump et de ses velléités d'acheter le Groenland. Mais en fait, la première occurrence, c'est 2019, quand Trump, enfin. Pour Trump, parce que sinon on peut remonter au 19e siècle, vers 1860-67 exactement. Mais quand en 2019, Trump propose de racheter le Groenland, en fait, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, bien très clairement refuse. Alors ça induit l'annulation, enfin j'ai plus les détails, mais l'annulation d'un voyage diplomatique de Trump au Danemark. Mais bon, globalement, voilà, c'est le premier épisode. Et puis avec le nouveau mandat de Trump, on a un peu l'épisode actuel. Donc c'est pas complètement nouveau. Mais voilà, dans le cadre précis de mes recherches, c'est quand même assez éloigné.
D'accord. Et justement, est-ce que vous avez pu rencontrer, vous parlez du fait que vous aviez fait des entretiens et qu'il y avait toute une dimension, une grande dimension qualitative dans votre recherche. Est-ce que vous avez rencontré des acteurs d'origine groenlandaise ou qui avaient un point de vue ou une relation vis-à-vis de ce territoire? Ou est-ce que le fait de travailler sur les espaces protégés a... finalement, vous n'avez pas amené à rencontrer ce type d'acteurs et de populations?
Merci. Là aussi, je vais vous répondre avec une grande honnêteté. Et la réponse est non. C'est-à-dire que... au regard de mon sujet, je n'ai pas rencontré d'acteurs groenlandais, je n'ai pas travaillé sur le parc national du Groenland, ça aurait pu être un autre travail, mais voilà, c'était pas le mien. Donc non, ou alors peut-être, mais dans ce cas, c'était pas quelque chose qui a été explicité, mais donc a priori non. Peut-être en marge d'un autre travail, je m'étais intéressé à un petit quartier, je ne sais pas si c'est prévu pour la suite de l'entretien, le quartier de Christiania à Copenhague. Vous connaissez peut-être la ville dite libre, libertaire, autogérée de Christiania, où une petite communauté inuite s'est implantée dans les années 1970. Mais voilà, c'était plutôt un pas de côté par rapport au travail de recherche, et donc je n'ai pas conduit d'entretien spécifique avec cette communauté groenlandaise installée à Copenhague.
Et merci beaucoup. Et justement, je m'intéressais au cas de Christiania, qui est un cas qui est relativement connu quand on pense à Copenhague et qui semble faire exception, en tout cas avoir une particularité dans le tissu urbain d'une grande ville. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu aussi, nous expliquer en quoi il fait écho à vos travaux sur les espaces protégés, sur la nature en ville, un peu plus largement?
Oui, alors je pense que la première expérience de Christiania, alors je ne sais pas si dans la salle certaines personnes se sont déjà rendues à Copenhague, certainement ont déjà à cette occasion pu aller dans le quartier de Christiania, mais je n'ai pas la superficie exacte, mais globalement c'est un tout petit quartier. Qui est un quartier implanté dans une ancienne caserne militaire qui a été désaffectée au début des années 1970 et investi par des communautés, on est dans la mouvance hippie, début des années 70, par des personnes qui prenaient une certaine utopie dans leur manière de vivre, un fonctionnement communautaire très horizontal, très écologique, etc. Et qui aujourd'hui est souvent connu pour une consommation libre et autorisée, tolérée en tout cas de drogue, en particulier de cannabis, mais pas seulement pour au-delà un certain nombre de libertés. Et en fait, c'est devenu une attraction touristique. Et donc, la première expérience de Christiania que j'ai eue, je pourrais tout à fait dire que c'est celle d'un touriste lambda qui, par curiosité, est rentré dans ce quartier de Christiania, dans lequel on rentre très simplement. Hein, et l'expérience, elle a été assez ambivalente parce que finalement, bon, on a cette curiosité un peu par rapport à des quartiers dont on peut avoir une image, mais ce qui m'a marqué, si je puis dire, c'est non pas la liberté mais plutôt le contrôle, une forme d'autocontrôle presque entre les touristes et les habitants de Christiania, et puis un contrôle très explicite, pas forcément d'ailleurs de la part des autorités municipales et encore moins de l'État, ça on le voit, à mes yeux on le voit pas très bien dans Christiania, mais avec un ensemble de panneaux qui interdisent en tout cas qui cherchent à dissuader très fortement de photographier par exemple. Donc bref, chacun à sa place, paradoxalement, ce quartier de Christiania, qui a priori est une sorte d'archétype de liberté, d'ouverture, de tolérance, etc., l'expérience que j'en ai eue, elle est beaucoup plus nuancée. Ensuite, pour revenir à la question, dans le cadre de ma thèse, disons que j'ai pu l'aborder comme un espace de nature urbaine. En fait, c'est un quartier où il y a une assez forte végétalisation. Il y a des dispositifs de protection, mais qui finalement sont assez peu contraignants. On est plutôt dans le registre de l'inventaire naturaliste type Natura 2000, par exemple. Donc assez peu contraignant d'un point de vue urbanistique, mais voilà, il est vrai que on a aussi cette proximité avec les espaces arborés, les espaces en eau aussi, Christiania étant entouré de canaux, enfin, en tout cas en grande partie. Donc c'était un autre aspect très intéressant de ce quartier-là, qui est un quartier quand même très central de Copenhague, mais qui n'est pas seulement un quartier minéral.
Merci beaucoup. Et il y a un autre espace de nature en ville que vous avez beaucoup étudié à Copenhague et auquel vous consacrez une partie conséquente de votre chapitre. C'est celui du parc de Vestamager, que vous décrivez comme l'aventure dans la nature aux portes de la ville. Je me demandais si vous pourriez nous décrire ce parc et surtout nous expliquer en quoi il peut être symptomatique ou en tout cas il peut être compris comme un espace de nature assez caractéristique des villes septentrionales, aussi en lien avec les autres terrains que vous avez eus, pour faire écho au livre dans son ensemble.
Merci. Donc ce quartier de Vestamager, on est dans la partie sud de l'agglomération de Copenhague, même de la municipalité de Copenhague, à proximité du quartier de Rastad, qui est le terminus de la ligne de métro. Et littéralement, je crois que je l'écris un petit peu comme ça dans le chapitre de l'ouvrage, on sort de la station de métro et puis on arrive en quelques mètres à peine dans des espaces où des espaces de pâture où on a des vaches, des moutons à proximité immédiate. Donc voilà, l'image est assez saisissante, hein, l'imbrication entre ville et nature, en tout cas le contact entre ville et cette nature qui est une nature agricole ici, hein, très directement approprié et assez saisissant. Mais en fait, quand on se renseigne un petit peu et quand on remonte le fil historique de cet espace, il est très intéressant. C'est aussi un espace qui a été un espace militaire, qui a été défonctionnalisé, puis refonctionnalisé aujourd'hui avec des fonctions récréatives. Alors la chronologie exacte, je ne l'ai pas sans note, mais globalement, il y a un abandon de la fonction militaire dans les années 90 de mémoire, toute une période cet espace, il est complètement interdit, hein, aux habitants de la ville. Il y a un travail de déminage qui est fait, de dépollution, etc. Et la réouverture apparaît dans les années 2010, à peu près, donc c'est assez récent. Cet espace va faire l'objet de politiques de renaturation, de politiques de protection. Donc il y a une réserve naturelle qui est créée. En fait, non, qui n'est pas créée en 2010, hein, qui est antérieure par ailleurs. C'est un espace où les Danois, les Copenhaguois peuvent s'adonner aux observations ornithologiques. Il y a énormément d'oiseaux. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un polder, donc c'est voilà, un espace gagné aussi sur l'espace maritime. Bref, c'est un espace extrêmement riche et avec des pratiques qui sont des pratiques un peu hybride entre des pratiques urbaines et puis des pratiques qu'on pourrait observer ailleurs dans des espaces ruraux, voire des espaces naturels, des pratiques de cueillette, des pratiques de contemplation, etc. Mais on vient en métro, on vient en vélo dans cet espace-là.
Merci. Et justement, c'est très intéressant parce que vous mentionnez que Vestamaguer est un polder et vous avez parlé du fait que Copenhague est plus généralement une ville portuaire avec une forte présence de l'eau et de la mer. Est-ce que, j'ai l'impression que dans la littérature, quand on parle de nature en ville, la nature maritime et l'espace maritime sont moins intégrés à ce qu'on imagine. Et donc, est-ce que le travail sur Copenhague vous a donné des clés d'analyse ou d'intégration des espaces maritimes comme des espaces de nature en ville? Et comment est-ce qu'on peut articuler ces différents types de territoires?
Oui, alors j'aurais presque envie de vous répondre en allant chercher des exemples de Stockholm qui me viennent à l'esprit, mais bon, du coup, ce serait trahir un petit peu l'esprit de la rencontre où on se focalise sur Copenhague. À Copenhague, il y a un espace en particulier qui m'a intéressé. Vous connaissez certainement cet aménagement, ce pont-tunnel plus précisément entre Copenhague et Malmö. Et en fait, à l'endroit où le tunnel se transforme en pont, eh bien, on a un îlot artificiel qui a été créé hein, de toutes parts cet îlot a été classé réserve intégrale c'est quasiment un des plus hauts niveaux de protection c'est-à-dire que globalement pour rentrer dans une réserve intégrale il faut une autorisation des gestionnaires etc. il faut justifier sa demande enfin, c'est assez contraignant et ça c'est extrêmement intéressant de voir qu'un espace entièrement artificiel hein, qui a été créé de toutes parts a été classé réserve intégrale. En fait, la raison elle est assez simple, c'est pour essayer d'étudier les processus de recolonisation, de développement des écosystèmes sur, on va dire, je vais dire très, de manière très triviale, hein, sur un îlot fait de béton. C'est un peu plus complexe que ça, voilà, le fait d'avoir un aménagement qui est une infrastructure de transport majeure à l'échelle de l'Europe du Nord et même plus largement à l'échelle de l'Europe, à très grande échelle ici, presque en marge de cet aménagement, un autre choix politique qui est fait, qui peut être interprété comme une forme de compensation écologique, peut-être, même certainement en partie, mais qui peut aussi être interprété comme une attention portée à ces écosystèmes côtiers, disons, qui peuvent et doivent faire l'objet de politiques de protection. Je n'ai pas répondu parfaitement à la question, j'ai fait un petit détour.
Mais c'était très intéressant. Et encore une fois, dans la perspective plus large du livre et aussi dans le cadre de votre travail, donc vous vous intéressez à l'urbanité, donc au rapport à l'urbain. Mais est-ce que, in fine, vous avez découvert une forme de rapport à la nature qui serait spécifique ou en tout cas différente, que ce soit au Danemark, soit dans les différents territoires que vous avez étudiés en comparaison, par exemple, de la France ?
Merci pour cette belle question et j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question-là. Pourtant, je la découvre pas aujourd'hui. Hein. J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que vous avez été aussi confronté, peut-être pour des objets d'études ou des terrains extrêmement différents, à la question des spécificités culturelles et politiques ici, d'un rapport à la nature. Autrement dit, vous ne le formulez pas comme ça, mais est-ce que les Danois, Suédois, Finlandais, Norvégiens seraient plus respectueux de l'environnement que les Français ou que d'autres peuples européens. Je ne vais certainement pas m'engager en disant oui à coup sûr. De manière un peu provocatrice, j'aime bien rappeler que en me baladant sur mes terrains d'études, j'ai aussi vu des déchets par terre, j'ai aussi vu des comportements qui me paraissaient assez surprenants, voilà, organiser un petit pique-nique ou un barbecue, puis finalement laisser à peu près tout en place. Je serais complètement incapable de conclure à une tolérance, une bienveillance beaucoup plus forte des populations d'Europe du Nord vis-à-vis des questions environnementales. Et en miroir, je me suis aussi intéressé un peu à cette exemplarité environnementale qui est souvent promue dans les politiques publiques pour montrer comment, du point de vue, j'évoquais les transports tout à l'heure, du point de vue de la consommation énergétique, du point de vue du recyclage ou de la gestion des déchets, voire de l'économie circulaire, on peut avoir un certain nombre de politiques publiques qui paraissent finalement très intéressantes, voire mieux disant par rapport à des normes ou des standards qui aujourd'hui sont pensés à l'échelle européenne.
Ok. Donc finalement, c'est assez ambivalent comme...
En tout cas, je me garderai de toute généralisation. Oui, ça c'est sûr.
Je comprends. Et aujourd'hui, quelle place joue le Danemark dans vos recherches? Est-ce que vous travaillez toujours sur ce territoire? Est-ce que vous êtes tourné vers d'autres territoires?
Là aussi, bonne question. Par contre, là, je peux répondre beaucoup plus simplement. Non, malheureusement, ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné au Danemark spécifiquement et même en Europe du Nord pour différentes raisons. Essentiellement parce que j'ai recentré un peu mes recherches sur des terrains peut-être plus locaux, des terrains alpins notamment, également des terrains méditerranéens. Donc on est bien loin de l'Europe du Nord. Mais quand on évoquait tout à l'heure la comparaison et ce que peuvent nous apprendre finalement des observations conduites ici ou là par rapport à d'autres territoires, ben, ça m'est très très utile d'avoir travaillé sur l'Europe du Nord pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe ailleurs, le ailleurs étant... j'ai envie de dire chez nous, en tout cas à deux pas de... Moi, je vous viens de Chambéry, donc dans les voilà à deux pas d'ici. Par exemple, concernant l'accès à la nature, je me suis beaucoup intéressé dans le cadre de la thèse au droit d'accès à la nature. Et vous savez peut-être que c'est une thématique qui est quand même de plus en plus prégnante aujourd'hui dans le contexte français, notamment depuis une loi de février 2023, du 2 février 2023, qui finalement... Allez, je vais le dire simplement, durcit un peu les conditions d'accès à la nature avec une conflictualité assez forte vis-à-vis de l'accès à certains territoires, notamment en montagne, mais pas seulement, qui sont de fait des propriétés privées. Mais c'est un autre sujet, mais en tout cas, ce que j'ai pu étudier en Europe du Nord, pas seulement au Danemark, hein, là pour le coup c'est quand même beaucoup plus en Suède, m'éclaire vraiment par rapport à ce que j'observe en ce moment, disons, dans des contextes alpins.
Et potentiellement dans le sens inverse, ou en tout cas depuis que vous travaillez sur d'autres sujets et depuis que aussi les territoires que vous avez étudiés durant votre thèse ont évolué, est-ce qu'il y a de nouveaux terrains qui vous intéresseraient au Danemark ou dans d'autres pays septentrionaux, et est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez traiter?
Oui, alors je pense que si j'y retourne, bon, j'ai pas de billet de train dans la poche, mais pour y retourner dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais ce serait clairement sur cette question-là, de l'accès à la nature pour creuser un peu cette thématique, essayer de faire un travail entre, je suis pas du tout juriste, mais peut-être en sollicitant des collègues juristes, un travail entre géographie et droit pour essayer de bien comprendre un peu le droit en pratique. Quant à voilà, cette entrée par les espaces naturels et par l'accès aux espaces naturels et donc les formes de dissociation entre propriété d'une part et usage d'autre part.
Et dans cette perspective, est-ce qu'il y a des éléments qui, donc depuis que vous avez rédigé ce livre, des éléments que vous auriez voulu rajouter ou que vous percevez différemment liés à ce dont vous avez parlé concernant Copenhague ?
Alors, si je devais réécrire le chapitre aujourd'hui, alors l'exercice au passage il est intéressant parce que je vais être très honnête aussi avec vous, c'est-à-dire que je l'ai relu ce week-end le chapitre et ça faisait quand même un petit moment que je ne l'avais pas relu à partir du moment où voilà, l'ouvrage est publié, bon, bah, on le reçoit gentiment, on le feuillette, on le relit éventuellement, puis après il finit comme beaucoup de livres, hein, bien rangé dans une étagère. Mais j'ai eu aucun mal à le retrouver, rassurez-vous, et donc à relire le chapitre. Et si je devais le réécrire aujourd'hui, oui, peut-être que j'aurais tendance à me renseigner un peu plus sur les relations qui sont là aussi très ambivalentes entre Danemark et Groenland, avec un peu presque aujourd'hui des formes de convergence d'intérêts où on a l'impression qu'on a alors une forme presque de d'unité, je ne sais pas, mais de rapprochement dans l'adversité, si je puis dire, vis-à-vis des États-Unis. Donc je creuserai peut-être un peu plus cet aspect-là, l'aspect géopolitique. Et s'il fallait que je le réécrive aujourd'hui, il faudrait forcément que je retourne à Copenhague.
Ok. Et peut-être une dernière question pour pouvoir laisser la parole après aux spectateuristes qui voudraient potentiellement prendre part à la discussion. Donc une question un peu globale de conclusion. Dans votre expérience de Copenhague, quel est l'espace qui vous a le plus marqué, que ce soit en tant que chercheur ou en tant que visiteur, je ne sais pas, un lieu, un quartier qui vous a particulièrement plu ou qui pour vous est assez central dans votre expérience?
Je crois que je répondrai avec l'espace qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire Vestamager, au sud de Copenhague. J'ai vraiment trouvé cet espace extrêmement riche, extrêmement intéressant. Et je ne suis pas ornithologue et je ne suis pas écologue. Hein, donc c'est vraiment du point de vue des pratiques sociales de cet espace-là que j'ai eu un grand intérêt à observer un petit peu ce qui s'y passait, à essayer de décrypter les politiques publiques à propos de cet espace-là.
Et bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Donc la question posée portait sur les continuités écologiques qui sont importantes en Autriche et le fait que c'est très bien pour la biodiversité et souvent moins le cas en France où il y a de plus grandes ruptures. Et donc savoir ce que vous constatez sur cette question pour le Copenhague.
Merci pour cette question. Alors la question des continuités écologiques, elle est très intéressante parce que finalement, quand on l'intègre, ça nous permet de voir comment les politiques environnementales plus largement ont évolué. Et pour les politiques de protection, on est passé d'une approche où finalement les politiques de protection fonctionnaient relativement en silo, avec des espaces protégés qui étaient dissociés les uns des autres. Et aujourd'hui, enfin, je pense que tout le monde est à peu près sensibilisé à cette question-là, un des enjeux majeurs, c'est justement d'établir des liens entre ces espaces-là. Et dans le tissu urbain, c'est parfois extrêmement difficile, du fait de l'existant, hein, d'établir ces continuités écologiques. L'organisation générale de Copenhague fonctionne en fonction d'un plan d'aménagement de 1947, le Finger Plan, qui est un plan sous la forme d'une main, c'est-à-dire d'une urbanisation. Alors, on utilise souvent l'expression urbanisation en doigt de gant, que l'on connaît assez bien le long des axes, etc. Mais là, la planification urbaine dans la deuxième moitié du XXe siècle s'est faite vraiment avec cette formule-là. Et les grands axes étaient non pas des axes routiers, mais des axes ferroviaires pour que finalement le bâti renvoyant aux espaces résidentiels, aux bureaux, à l'ensemble des commerces, etc., soit le long de ces voies ferrées, donc soit desservi par le chemin de fer. Et c'est subjectif peut-être, mais j'ai l'impression que ça fonctionne quand même assez bien. Le problème, c'est que quand on veut passer des espaces interstitiels, si je puis dire, entre les doigts urbanisés, eh bien, ça peut être aujourd'hui un peu plus délicat. C'est-à-dire que ce sont des couloirs urbains qui sont quand même relativement denses au niveau de la continuité du bâti. Et donc, la continuité écologique, qui est transversale pour passer d'un espace à l'autre, je pense que tout le monde a à peu près l'image, eh bien, il faut la construire. Et donc, ça peut passer par des aménagements parfois relativement ténus ou discrets, ça peut être des rangées d'arbres, mais en évitant les rangées d'une seule espèce, évidemment, avec des arbres, une sorte de micro-forêt urbaine, hein, presque, qui permettent d'établir cette continuité. La continuité, elle est aussi aquatique, et dans le cadre de Copenhague, ça fonctionne très très bien. Quand j'évoquais Christiania et les canaux, par exemple, qui sont aux abords, il y a les canaux eux-mêmes, il y a les berges immédiate, et donc ça facilite quand même grandement la continuité écologique. Mais c'est un enjeu majeur des politiques publiques que d'essayer de renforcer cette continuité écologique, notamment dans un pays comme au Danemark et plus largement en Europe du Nord, où je rejoins la question de tout à l'heure, où l'ambition environnementale, en tout cas au niveau politique, est quand même une ambition qui est assez bien partagée. Je suis prudent, mais qui existe quand même bel et bien. Et juste un tout petit détour par un autre pays nordique. en Finlande, à Helsinki en particulier, cette continuité écologique, elle est presque symbolique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, il y a une parc, hein, une forêt urbaine, hein, qui vient quasiment jusqu'au cœur d'Helsinki, par le nord, et c'est presque l'ensemble de la nature et de la forêt finlandaise qui symboliquement descend jusqu'à la capitale, s'intègre presque directement à la capitale.
Moi, j'avais une question plus sur le travail de recherche. Du coup, vous avez dit que vous avez un peu mis en récit le travail pour le bouquin. Et donc, dans le travail de thèse plus précisément, en quoi ça consiste, enfin, comment vous mettez en forme, qu'est-ce que vous donnez à voir, est-ce que c'est très descriptif, comment ça fonctionne d'un point de vue scientifique?
J'ai combien de temps Dans le travail de thèse, il y a à la fois, je disais tout à l'heure, tout un travail de positionnement qui me semble essentiel pour essayer de comprendre un peu mieux le travail. Donc ça, c'est dans l'introduction, dans le premier chapitre de la thèse, ce travail-là qui est fait. Et puis après, il y a quand même un effort d'objectivation, si je puis dire, c'est-à-dire par rapport aux matériaux qui sont mobilisés, eh bien essayer on ne va pas transformer les faits, évidemment, c'est pas le but, hein, ou les sélectionner parce que ça nous intéresse, mais un protocole méthodologique qui peut être mis en place. Je vais peut-être vous répondre un peu plus, avec un exemple un peu plus précis. J'ai notamment travaillé, alors de manière un peu expérimentale, mais ça, j'ai l'impression que ça fonctionnait assez bien, avec de la vidéo dans le travail de thèse, c'est-à-dire en positionnant des caméras dans des entrées d'espaces protégés pour essayer de. Alors le but, c'était pas de faire du comptage, hein, et de faire des moyennes sur une année ou plus ou moins, mais c'était pour essayer d'observer et quelque part de garder une trace aussi de ces pratiques-là. Et donc j'ai travaillé avec des vidéos timelapse, les vidéos accélérées là, qui permettaient finalement sur une journée par exemple d'avoir un peu un condensé des pratiques qu'on pouvait observer dans un espace. Donc ça c'est un exemple peut-être parmi d'autres, mais pour essayer de trouver des méthodes qui nous aide à dépasser, si je puis dire, l'observation au doigt mouillé.
Dans ce cas-là, je vais juste vous remercier une dernière fois d'être venu pour participer à cet échange qui était très intéressant et qui parlait d'un ouvrage qui est vraiment, je trouve, très original dans le monde de ce qu'on peut trouver en géographie et qui donne vraiment envie de découvrir ces territoires plus profondément. Et merci aux ENS Éditions aussi de nous avoir accueillis. Et merci aux auditeurs et auditrices. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre.
Merci de votre invitation.